Les colloques du Collège de France.
Et donc nous accueillons maintenant Ilya Arkhipov, professeur à l'Université nationale de recherche, École supérieure d'économie, Académie des sciences de Russie. Donc il nous vient de Moscou pour quelques jours et il va nous présenter une communication intitulée « Des accusations contre Moukhanichoum, l'intendant du palais de Marie ».
Bonjour. Je commence par remercier Dominique Charpin et le Collège de France et toute l'équipe qui m'accueille à chaque fois chaleureusement. C'est toujours un plaisir d'être là. Et là, je passe à la communication et je vais encore parler de Moukhanichoum. J'ai déjà fait il y a 2 ans. Je ne sais pas si c'était la même salle, mais c'était le même lieu. Et je pense que tout le monde n'a pas assisté et tout le monde ne connaît pas Moukhanichoum aussi bien que les mariologues. Alors je vais rappeler qui c'est. Il était fils de Abdo Barlati. Son père était un Amourite. Il était aussi, en fait, un Marbit Tupim. Et je suis assez certain qu'il était lettré, qu'il savait lire et écrire et qu'il a écrit beaucoup de textes, en fait, par sa propre main qu'on a dans le palais. Et aussi, il était un kirisakoum, un courtisan. Ça va être important pour la discussion d'après. Il était l'intendant du palais de Marie. En fait, il y avait plusieurs intendants, mais il était l'intendant, la personne principale pour la gestion du palais. Il est omniprésent, mais pas sur tout le règne de Zimrilim, mais seulement de la fin de l'année 2 et jusqu'à la fin du règne, en fait. Et il s'occupait de tout, en fait, de textiles, de joaillerie, d'armes, d'huile, de matières brutes diverses. Il était le patron des artisans. Il était le propriétaire des archives de la zone sud-est du palais, là où il y a plusieurs salles où je crois que c'était les archives de Moukhanichoum. Et il est documenté amplement. Je ne sais pas si c'est... Je n'ai pas fait le... j'ai pas regardé Archibab pour savoir s'il est la personne la plus mentionnée des archives de Marie, mais ça ne m'étonnerait pas, en fait. C'est quelqu'un qui a laissé beaucoup de traces et qui a beaucoup été étudié, à commencer par la monographie de Olivier Rouault, ici présent, alors qui est le fondateur de Moukhanichologie. Maintenant je vais contribuer un peu aussi à la compréhension de ce personnage. Et ça sera, en fait, étonnamment, pas sur la comptabilité, qu'on étudie avec Grégory Chambon depuis 15 ans, je pense, mais ça sera en fait concernant une question juridique, plutôt la présentation d'un nouveau joint, en fait, qui contribue à notre connaissance des pratiques juridiques dans le palais, mais je ne suis pas un historien du droit, alors les spécialistes verront ce qu'on peut en faire. Mais aussi, en fait, il est intéressant de voir Moukhanichoum d'un côté un peu humain, par ses proches et aussi par ses ennemis. Et c'est ce qu'on va faire parce que ces textes contiennent des informations sur les deux. Alors, c'est un petit dossier de 2 textes que j'appelle mémoranda juridique parce que, en fait, ce sont, à mon avis, pas de textes officiels. Ils ne sont pas datés. Je considère que si un texte n'est pas daté, c'est juste quelque chose qui a été écrit pour l'usage interne, en fait. Normalement, il y avait 3 textes. Oui, mais maintenant, il y a que 2. Il y a une fiche de moi dans un Shibab à un moment. Parce que j'ai pu faire un joint. Je l'ai pu faire ce joint seulement parce que l'équipe a mis toutes les photos du volume 25 sur le site d'Archibab. Alors j'ai fait un téléjoint sur les photos, je vais le montrer. Il y a un texte qui a été publié sous forme électronique, mais c'est une vraie édition en fait par Jean-Marie Durand. Un autre qui a été publié réédité en fait par Michael Guichard. Ils ont tous été publiés avant par l'IME, bien sûr, mais ils ont été réédités par Durand et par Guichard. Et puis il y a un autre texte qui appartient au même dossier, qui est aussi cassé, mais fait pas joint avec 2 autres. Qui était publié et édité par Jean-Marie Durand dans le volume 30 des Archives royales de Marie. Alors, ces tablettes viennent de la salle 115, donc normalement, s'il n'y a pas d'erreur, elles viennent de la chancellerie royale, des archives de Zimrilim, pas des archives de Moukhanichoum lui-même. Pour la date, on peut utiliser la prosopographie. Le terminus postquem, c'est l'affectation de Mukanishum à son poste. Et le terminus antequem, c'est la mort de Sametar, parce qu'il est mentionné dans ces textes. Je vais dire qui c'est tout à l'heure. Et peut-être, il y a une coïncidence avec le moment où on fait le contrôle général des activités de Mukanishum, parce que là, elle est accusée de vol, et aussi on fait un contrôle général de ses comptes au début de l'année Zimrim 7. Peut-être c'est le même moment, mais on ne peut pas être sûr. Et si Sametar meurt au même moment, ça devient encore plus intéressant, mais évidemment, ce sont que des spéculations de ma part. Voilà, c'est le juin, téléjoint sur les photos. Vous voyez bien que c'est la même tablette. Je ne suis pas très bon à Photoshop, mais oui, c'est une certitude à mon avis. Et c'est le premier texte, et voilà son contenu. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait Mukanishum? Il a volé des choses au palais. Il a malversé, il a détourné des fonds, en fait, parce que c'était sous son contrôle. Il a donné un collier de lapis lazuli à une femme, dont le nom peut se lire Nounou Utsri ou Announou Utsri ou Announou Utsri. En fait, je ne sais pas quelle lecture est la bonne. Puis, il a voué, en fait, une figurine à une déesse Ishkara de Kulkhitum. Kulkhitum, c'est de la région de Terka, et on verra qu'il y a beaucoup de liens avec Terka dans ces textes, en fait. Et Ishkara, on sait bien que c'est une manifestation d'Ishtar qui est responsable en particulier pour les mariages. Alors, il y a une femme, il y a un mariage, peut-être. Et par la suite, oui, il a aussi volé... il aurait volé, en fait, du bronze. Là, ça devient cassé, et on ne comprend pas ce qui se passe avec ce bronze. Mais il y a un monsieur Kalaloum qui est mentionné, je vais en parler aussi tout à l'heure. Et on continue. En fait, il y a aussi son neveu qui est mentionné. Donc, on a toute une histoire de quelqu'un qui s'approprie de choses et qui les donne à ses proches. Voilà. Mais le plus intéressant, évidemment, c'est la partie de témoins, des gens qui l'accusent, des gens qui confirment, en fait, qu'il s'agit de vol. Et je vais parler de chacun tout à l'heure. On verra que c'est l'élite du palais, c'est les gens les plus importants du palais qui accusent ce pauvre gestionnaire. Voilà. Et le deuxième texte, qui vient du même dossier, en fait, manifestement, mais je pense que la différence, c'est que le premier texte parlait de pierre fine et de métal, et le deuxième texte parle de textile et aussi de meubles. Ouais. Par la suite, elle parle de meubles que Mukanishum a sorti du palais. Et là, il a donné quelque chose à sa sœur, apparemment, ou à un fils de sa sœur. Et puis, il a aussi été accusé par Shunuch Rahalu, qui est encore un homme très important. Le texte a une structure différente. Il n'y a pas de liste d'accusateurs où c'est disparu, mais dans le texte, on mentionne que Shunuch Rahalu l'a pris en défaut. Alors, qui sont tous ces gens? Nounou Utsri ou Announou Utsri, la femme qui est dans la première partie du premier texte, on ne sait pas, mais il est intéressant de voir qu'il y a une tisseuse. Je ne pense pas que c'est la tisseuse, en fait, parce que Mukanishum, quand même, c'était quelqu'un d'assez haut placé. Mais il y a aussi une femme qui a envoyé une lettre. Malheureusement, c'est mal conservé. Et la lettre a été découverte dans la zone des cuisines du palais. C'est assez rare, salle 69. On voudrait en fait penser que c'est une femme lettrée, assez haut placée, ou ayant accès à un scribe, qui a envoyé à sa connaissance dans le palais, qui travaillait aux cuisines, une lettre, et il est connecté avec Mukanishum d'une façon ou d'autre. Mais on ne sait pas vraiment s'il y a un mariage entre Mukanishum et cette femme. ou s'il y a une relation amoureuse, parce que Mokanishom était un Kirisakum. Et je fais partie de ces gens qui considèrent que Kirisakum sont des eunuques. Voilà, je ne sais pas. Là, elle a un neveu par le frère, je l'ai déjà mentionné. Elle a une sœur. Le texte ne parle pas d'enfant. Mais on ne sait pas, parce que les textes sont cassés, on ne peut jamais être sûr que dans la partie cassée, il n'y avait pas de mention d'enfant. Un eunuque peut bien adopter des enfants. Il y a quelqu'un qui s'appelle Kalalum. Il n'est pas identique à Kalaan, parce que ce dernier est mentionné par la suite. Et comme Nele Ziegler a montré, ce sont deux personnes différentes. Et c'est un fonctionnaire peu attesté, mais un Kalalum a envoyé une lettre au roi. Donc c'était quelqu'un d'assez important, peut-être la même personne, peut-être pas. Mais de toute façon, je pense que c'est la même personne parce qu'il s'agit de gens importants et il est d'une façon ou d'autre connecté avec Mokanishom. Oui, les accusateurs, on en apprend beaucoup plus. Comme on sait bien, il n'y a pas d'un livre sur la prosopographie de Marie. C'est une chose à faire, parce que ça serait énorme, une série. Mais il y a des publications, et il y a surtout les cours de Dominique Charpin de l'année dernière au Collège de France, où il parle en détail de ces personnages. Mais il y a aussi des publications où on les discute d'une façon ou d'autre. Alors, Sametar, c'était le vizir du royaume, la deuxième personne après le roi. Il est bien connu. Yassim Soumou était le chef comptable, aussi quelqu'un de très haut placé. Warad Elishou était le chef de musique. Dans ce monde du palais, un chef de musique, c'est aussi une personne très importante, chargée de mission à Alep et tout ça. Oui, Kapiadou, on n'a pas son titre, mais on sait qu'il était fils du devin Askoudoum, qui était aussi une personne très proche du roi et très importante. Donc, il y a des gens très, très importants. Et il y a aussi Shunuch Halou dans l'autre texte, qui était le secrétaire privé de Zimrilim. Il n'y a pas encore d'études très détaillées, si je comprends bien, mais il y a des notes par Jacques Sasson et par Dominique Charpin là-dessus. Warad Elishou, évidemment, c'est le volume sur la musique de Nele Ziegler, etc. Et il y a d'autres accusateurs qui sont un peu moins connus. En fait, il y a un qui s'appelle Tsuri Larim, qui était sans doute de Dourier Dunlim, qui était majordome. C'est aussi la région de Terka, largement, et qui était récemment étudié par Jean-Marie Durand. Et il y a un Bounoum Adou qui participe souvent à des contrôles administratifs dans le palais. Et il y a une note sur ce personnage dans l'article co-signé avec Grégory Chambon qui paraîtra un jour dans les actes du colloque Marimont. Kalaan, c'était un chef militaire et qui apparaît souvent avec Khale Khadoun. Et Khale Khadoun était en fait le frère de Sametar, du vizir. Et Abimekim, aussi, c'est un militaire où il participe à des missions. Il fréquentait, on peut dire, parce qu'il y a quand même des liens prosopographiques dans les textes, Kalael et peut-être aussi Yassidagan, qui était un autre frère de Sametar. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a cette clique de Sametar qui s'acharne sur ce gestionnaire. Il y a des gens de Terka, des environs, qui ont des postes importants et qui ont aussi entraîné d'autres gens importants, comme on va dire des Lichou, dans leur affaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? On sait très bien que rien ne s'est passé parce que Mokanishom a continué son travail après. Oui, il n'a pas été tué, il n'a pas été emprisonné, il n'a pas été même limogé. Donc, l'affaire apparemment a échoué en fait. Mais il faut bien sûr plus d'informations pour voir le contexte de tout cela. Et bien sûr, le dossier n'est pas isolé à Marie, parce qu'à Marie, il y a tout. Et il y a un autre dossier étudié récemment par Jean-Marie Durand qui concerne quelqu'un qui s'appelle Ishtar Kabar. Il était chef des ergastules. Et il y a au moins deux textes qui le concerne. L'un est très semblable au nôtre. Il y a même deux personnes qui sont les accusateurs dans les deux. D'autres sont différents, y compris Mukan Chung lui-même. En fait, il est dans le rôle d'accusateur dans ce texte-là. Et on voit en fait qu'ils sont appelés Gir 3. On voit la polysémie de ce terme, Gir 3. Et c'est seulement du contexte qu'on dérive que c'est le même rôle dans ce contexte que dans l'autre texte est exprimé par le verbe kunnu, mettre en défaut. Oui, donc une petite contribution à la compréhension de ce terme. Et il y a un autre texte où il prend un serment apparemment niant ses abus concernant le personnel, mais aussi l'argent et les pierres fines. Il y a une liste de prévarications très longue et très cassée, mais pour ne pas multiplier les choses, parce qu'il s'agit aussi des ergastules, je pense que c'est sans doute aussi le dossier de Ishtar Kabar. Un texte qui n'est pas exactement du même genre, mais on voit que des employés, voler des fois des choses, oui, c'est humain, mais il n'y avait pas d'atrocité comme proposé dans les lois d'Amorabi. Il payait des amendes pour ses faiblesses, assez importantes, de 10 ou 20 cycles, mais rien d'exceptionnel en fait. Peut-être Mukan Chung, il a payé une amende, ou il a négocié un accord, je ne sais pas, parce que justement, il y a ce côté humain que j'ai présenté, il y a ce côté juridique que j'ai, je ne peux pas, en tant que philologue, historien du droit, vraiment comprendre, mais d'autres gens comme Safi Lafont en feront beaucoup plus que moi. Mais je voulais aussi revenir à la fin, en fait, à la question pourquoi et pour qui on écrit le droit. Oui, parce que ces textes-là, ils sont conservés aussi dans la chancellerie royale, c'est-à-dire c'était les archives du roi, on conservait ça. Et pour Ishtar Kabar, on sait qu'il a été viré, en fait. Il n'apparaît plus après cette histoire. Pour Mukan Chung, on sait qu'il n'a pas été viré. Oui. Alors, dans les deux cas, l'affaire était réglée, mais on conservait ces textes jusqu'à l'année 13, pendant 7 ans, après le... 7 ans dans le cas d'Ishtar Kabar et 6 ans dans le cas de Mukan Chung, et on les a laissés dans les archives du roi. Alors, peut-être si Mukan Chung avait commis quelque chose d'autre, il avait déjà un dossier dans le sens moderne du terme, oui, et on pouvait le sortir et dire que vous avez déjà une histoire d'accusation, de soupçons et tout ça, peut-être. Ishtar Kabar, je ne sais pas, parce qu'en fait, il disparaît à partir de cette date de la documentation, si je ne me trompe pas, parce que c'est toujours compliqué. Je pense que ce sont des mémoranda, mais je ne comprends pas, en fait, pourquoi et pour qui ils ont été écrits. Et je pense qu'ils ont été conservés dans les archives, parce que les archives, comme chacun connaît, comme chacun sait, ce n'est pas quelque chose qu'on nettoie tous les jours. On a tous des papiers qui traînent depuis des années qui ne servent plus à rien. Je pense que pour la chancellerie royale, c'était très souvent le cas aussi. Donc on jetait des choses, on triait des choses, on libérait de la place, mais facilement, des textes qui n'avaient plus aucun intérêt, ils restaient dans les archives simplement parce qu'on ne les a pas jetés. Voilà. Je vous remercie de votre attention.
Collège de France. Le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.